débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Un débat ce soir de santé publique, mais pas seulement, hein, qui revient en France au premier plan. Est-ce qu'il faut dépénaliser le cannabis? La classe politique s'est à nouveau emparée de la question après la publication il y a une dizaine de jours d'un sondage Ipsos, sondage selon lequel une majorité de Français, 52% très exactement, sont favorables à la vente de cannabis sous contrôle de l'État. Alors il faut savoir que malgré l'interdiction de cette drogue dite douce, eh bien la France aujourd'hui est le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Quels sont les risques lié à la consommation de cannabis? Est-ce que l'État doit avoir la main sur la production et la vente de cannabis afin de réguler le trafic? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités à nos côtés en studio, Nicolas Bonnet, bonsoir.
Monsieur Ouzoui.
Vous êtes pharmacien spécialisé en santé publique, favorable à une dépénalisation du cannabis. Ce n'est pas la position de notre second invité, Serge Lebigot, bonsoir.
Bonsoir.
En ligne avec nous, vous êtes président de l'association Parents contre la drogue et notamment auteur de l'ouvrage intitulé « Le dossier noir du cannabis ». Serge Debigot, justement, vous qui êtes opposé à cette dépénalisation du cannabis, qu'est-ce que vous pensez de ce sondage donc, qui affirme que 52% des Français sont pour une vente du cannabis sous contrôle de l'État ?
Alors moi, je me pose surtout quel est le petit malin qui a fait un sondage comme ça, parce qu'il y a un sondage qui est sorti dimanche, donc c'est très récent, et qui dit tout l'inverse de ce que vous venez de dire. Et donc, en fait, le sondage dit « Êtes-vous favorable à la dépénalisation du cannabis opposé à 54% et à la légalisation du cannabis 61%. » Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes chiffres.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avis de la population française sur le sujet, finalement, est fluctuant?
Non, elle n'est pas fluctuante. Enfin, depuis 20 ans, moi, j'ai vu aucun sondage en faveur de dépénalisation et légalisation. Parce que là, vous avez fait une petite erreur en présentant. Vous parlez de dépénalisation du cannabis et ensuite, vous dites « contrôlé par l'État ». Donc, là, on parle de légalisation.
Alors justement,
ce n'est pas la même chose.
Effectivement,
c'est l'autorisation de transporter sur soi une petite quantité de cannabis. C'est le modèle hollandais et espagnol. Par contre, la légalisation, c'est le modèle dans le Colorado ou en Uruguay.
Et c'est effectivement intéressant de clarifier les positions des uns et des autres sur ce sujet. Nicolas Bonnet, vous êtes pour une dépénalisation ou pour une légalisation du cannabis en France ?
J'ai aussi pour votre question, vous conviendrez que la réponse ne peut pas se résumer à un simple oui ou un simple non. Vous l'avez rappelé, on assiste aujourd'hui en France à une politique de répression massive contre le cannabis, en tout cas contre les usages de cannabis, alors que la France reste le pays le premier consommateur en Europe de ce produit. On assiste également à une dépénalisation de fait de l'usage de cannabis, puisque le droit pénal ne fait aujourd'hui pratiquement plus l'objet d'un prononcé de peine. Néanmoins, l'usage de cannabis continue à représenter plus de 90% des infractions à la législation sur les stupéfiants. Et ces interpellations ont un coût. Elles ont un coût important pour la société. Tout d'abord, en termes financiers, pratiquement plus d'un demi-milliard d'euros est consacré à la répression sur le cannabis, soit 14 fois plus que les dépenses de santé ou de prévention associées. Et donc, la question aujourd'hui ne peut plus seulement être savoir s'il faut ou pas dépénaliser l'usage de cannabis, mais comment concrètement il faut le faire, et ce, dans les détails les plus techniques, pour trois objectifs. Un objectif de santé publique, sociale, sanitaire, sécuritaire également. Un objectif de baisse de la criminalité, et enfin un objectif économique avec une augmentation des recettes fiscales.
Alors on va détailler bien sûr tous ces points, mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette opinion publique finalement qui semble avoir des avis assez différents, assez fluctuants? Notre interlocuteur Serge Debigot évoquait un récent sondage. Moi, je parlais du sondage du début du mois d'octobre qui évoque que 52% des Français sont favorables à la vente de cannabis sous contrôle de l'État. On a l'impression finalement que l'opinion française est évolutive sur le sujet.
L'opinion française évolue depuis une quinzaine d'années. Les différentes enquêtes.
Mais dans quel sens, selon vous?
En opinion, des enquêtes en population générale démontrent finalement qu'il y a une évolution dans un sens de plus de gens favorables à un contrôle différent du cannabis. Dans le même sondage que vous citiez tout à l'heure, pratiquement 9 Français sur 10 estiment que la loi aujourd'hui entourant la consommation de cannabis n'est pas applicable, pas appliquée et qu'il faut absolument la changer. Et puis par ailleurs aussi, les Français sont au courant de ce qui se passe à l'étranger dans différents pays européens, Espagne, Allemagne, Angleterre, mais également États-Unis, mais également Amérique latine avec l'Uruguay, des pays où la réglementation entourant l'usage de cannabis a considérablement évolué en s'appuyant encore une fois sur les données scientifiques valide.
Serge Debigot, pourquoi, selon vous, il ne faut pas dépénaliser le cannabis?
Alors déjà, moi, je voudrais revenir, parce que je n'ai pas trop bien compris votre interlocuteur, c'était pour la légalisation ou la dépénalisation, parce que là, je n'arrive pas du tout à comprendre.
Alors, Nicolas Bonnet, est-ce que vous pouvez clarifier votre position sur le sujet?
Je suis pour, clairement, aujourd'hui, un débat sur l'usage de drogue de façon générale et particulièrement l'usage privé de cannabis qui doit, un peu, à mon sens, absolument évoluer. Évoluer comment? Sur un dispositif qui doit être un dispositif pensé de façon sociétale avec l'ensemble des acteurs de la prévention, du soin et également du secteur répressif, mais également l'éducation nationale, etc. Avec un enjeu fort qui est celui tout d'abord de diminuer l'attractivité du cannabis. Ça a passé par des mesures de prévention, par des mesures de contrôle, par des mesures également structurelles en limitant l'accès, en interdisant la vente aux mineurs, en limitant la publicité, en émettant des avertissements sanitaires, etc., par des mesures également éducatives, de prévention, en développant les compétences psychosociales, par exemple, des plus jeunes, donc en favorisant l'estime de soi, en favorisant le sentiment d'efficacité personnelle, etc., et puis également en favorisant des programmes de prévention qui sont fondés sur les preuves, qui sont innovants et qui permettront, comme dans de nombreux pays aujourd'hui, de faire diminuer les usages aujourd'hui trop élevés de cannabis en France.
Serge de Bigot, votre avis, est-ce qu'il y a assez de prévention sur les risques, on va dire, du cannabis, ou en tout cas, est-ce qu'il y a assez de sensibilisation en France?
Je vais vous donner justement dans le sondage qui sort d'un présent, il y a quelque chose qui est assez amusant parce que il parle justement pour est-ce que la politique de lutte contre la drogue est efficace en France. 58% des Français pensent qu'elle est laxiste et inexistante. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans des gens qui veulent légaliser. Et j'entendais votre instructeur parler du Colorado, parce qu'en fait, il faut parler de l'État, c'est le Colorado qui a légalisé. Je vais quand même vous donner quelques chiffres de voir le succès que c'est au Colorado. Les hôpitaux signalent un pic de 30% de visites aux urgences de gens dus au cannabis. Mais ce qui est pire encore, c'est grâce à ça, 50% de gamins de moins de 18 ans sont admis aux urgences chaque année maintenant depuis la légalisation. Quant à la mafia, vous croyez qu'elle est abandonnée, et le procureur général du Colorado reconnaît que maintenant c'est une erreur, parce qu'en vérité, non seulement les cartels ne se sont pas affaiblis, mais sauf que maintenant ils se servent de la loi au lieu de l'enfreindre.
Alors,
donc, vous voyez, c'est pas du tout un succès. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours. Croire qu'on va arrêter les vendeurs de drogue parce qu'on va légaliser, mais c'est une plaisanterie.
Je peux vous
un
donner
gamin qui gagne 3000 euros par jour, il va sûrement pas les pointer au chômage ou alors travailler pour le SMIG.
Serge de Bigot, je peux vous donner un contre-argument concernant justement l'exemple des États américains qui ont récemment assoupli la légalisation. Bertrand Dotzenberg, qui est pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, a déclaré que la consommation n'explosait pas dans ces États américains qui ont donc assoupli la législation concernant le cannabis. Les consommateurs prennent, a-t-il dit, des produits plus sains. Donc finalement, quel lien ça montre que l'interdiction du cannabis ne favorise pas sa consommation?
Bertrand Zannemberg, il raconte n'importe quoi, parce que moi j'ai fait plusieurs débats avec lui. C'est totalement faux. Les politiques disent qu'effectivement ça a baissé. Les vendeurs de cannabis officiels dans le Colorado reconnaissent eux-mêmes qu'il y a une augmentation des consommateurs.
Nicolas Bonnet.
Le problème, c'est que...
Les États-Unis sont un exemple fort intéressant puisque d'abord le Colorado certes a légalisé, mais plus de la moitié des États, même les deux tiers des États aujourd'hui aux États-Unis ont modifié leur réglementation sur les usages de cannabis, qu'ils soient thérapeutiques ou qu'ils soient récréatifs. On observe, et là c'est des données toutes récentes d'une grosse étude qui est parue par la Drug Policy Alliance aux États-Unis sur le Colorado, qui est une étude qui est étayée par plus de 90 papiers référencés de recherche, qu'il y a une baisse massive au Colorado d'abord des arrestations, évidemment liées à la consommation de stupéfiants, qu'il n'y a pas recours aussi à d'autres produits stupéfiants, c'est aussi une nouvelle importante, et qu'il n'y a pas non plus d'augmentation, bien au contraire, de l'usage de cannabis chez les plus jeunes, et qu'il n'y a pas non plus d'augmentation des accidents liés à l'usage de cannabis. Donc trois raisons fortes qui poussent à dire que cet exemple-là, même s'il faut continuer à l'étudier, est un exemple fort intéressant pour modifier la réglementation concernant l'usage de cannabis.
Serge Le Bigot. Moi,
je peux vous répondre tout de suite, parce que si vraiment il y a un organisme dans lequel il ne faut pas faire confiance, c'est la Drug Policy Alliance. Il faudrait quand même rappeler aux gens qui vous écoutent qui est derrière tout ça. La Drug Policy Alliance est dirigée par un salopard qui se prend pour un philanthrope qui s'appelle George Soros, qui a réuni des millions d'épargnants à travers le monde et qui espère effectivement, grâce aux drogues, s'enrichir.
Alors, sur la question de la santé, parce qu'effectivement, les 23 États américains qui autorisent la marijuana, notamment le font à usage thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, sur cette question sanitaire?
Ils ne l'ont pas du tout légalisé. Il faut quand même rappeler qu'en dehors du Colorado, pour l'instant, et Washington qui va le faire, il n'y a que deux États qui ont légalisé.
Mais
c'était uniquement une autorisation de consommation.
Sur l'assouplissement, en tout cas, de la législation, au motif sanitaire, au motif thérapeutique, vous en pensez quoi?
Mais au motif thérapeutique, vous n'avez pas un médecin honnête qui vous dira, pour vous soigner, vous pouvez filer du cannabis, l'état en clair, vous filez un cancer du poumon.
Il est prouvé que les usages médicaux, en tout cas des dérivés du cannabis, sont très nombreux.
Oui, des dérivés, mais vous précisez bien des dérivés. C'est-à-dire qu'on sortira dans les années à venir sûrement un ou deux médicaments dérivés à base de molécules du cannabis, mais ce sera en aucun cas du cannabis fumé.
Nicolas Bonnet.
Alors, les usages thérapeutiques du cannabis ont fait preuve aujourd'hui, encore une fois, dans de nombreuses études scientifiques. Je crois que le débat n'est pas de savoir si on est pour ou contre, mais en tout cas de s'appuyer sur les preuves, sur les données valides et qui sont elles-mêmes référencées. Le cannabis thérapeutique est une aide importante dans de nombreuses situations sanitaires, que ce soit dans les douleurs chroniques, que ce soit dans la sclérose en plaques, que ce soit dans le glaucome, etc. Beaucoup d'indications qui, aujourd'hui, sont fort intéressantes. Je voudrais revenir aussi sur le fait qu'il n'y a pas que le Colorado aujourd'hui qui permet un usage récréatif du cannabis. Il y a l'État de Washington, il y a l'Alaska, l'Oregon, le district de Columbia également qui, vont s'y mettre de façon très rapide. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, il s'appuie sur les résultats fort prometteurs du Colorado, qui sont des résultats qui vont vraiment dans le sens de la santé publique. Un dernier point, c'est celui également qui a été cité par M. Lebigot, des 3000 euros supposés par jour des revenus de cannabis. On en est très très loin. Aujourd'hui, en France, le marché illicite du cannabis génère beaucoup plus de précarité, beaucoup plus de criminalité qui génère de fonds, et l'argent qui est récupéré, il n'appartient en réalité qu'à une minorité, à une faible minorité de personnes qui détiennent un marché extrêmement important.
Alors Serge Lebigot, effectivement, est-ce que si l'État finalement a la main sur la production et la vente de cannabis en France, la permet, on parlait de la santé, notamment de maîtriser la toxicité du cannabis, c'est important, hein, limiter le dosage en THC qui est le principe actif du cannabis?
Bon, si on limite le dosage, je ne sais pas à quel taux votre interlocuteur veut limiter, mais on va dire admettons à 15, vous pensez que les dealers ne vont pas vendre du cannabis plus fortement dosé ? Vous pensez que les dealers ne vont pas vendre d'autres produits comme la cocaïne et d'autres ?
Alors ça peut permettre de réguler justement le trafic parallèle.
Ça ne va pas du tout réguler.
Non.
Enfin, les Hollandais n'ont rien régulé du tout. Regardez, c'était quand même, on a un bel exemple. Eux, ils ont juste dépénalisé. Qui tient les coffee shops en Hollande ? Ce sont les mafias turques. Donc faut pas dire qu'on régule. Les mafias ne s'arrêtent jamais. Vous avez un exemple avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis. La mafia s'est pas écroulée à la fin de la prohibition. Au contraire, elle avait déjà trouvé un autre produit, c'était l'héroïne.
Nicolas Bonnet,
ce qu'on démontre là, en fait,
c'est dépénaliser le cannabis pour lutter contre le trafic de drogue, finalement.
C'est une mesure fort importante. C'est à l'heure un des objectifs que je rappelais. C'est-à-dire un des objectifs de changer la loi sur le cannabis, c'est évidemment aussi combattre la criminalité qui est associée. Je veux rappeler qu'en Europe, le pays le plus en avant là-dessus, sur les usages de drogue de façon générale, d'ailleurs, c'est le Portugal, qui a lui dépénalisé l'ensemble de l'usage de toutes les drogues, contrairement aux Pays-Bas, qui est souvent mis en avant, mais qui est pas du tout un pays qui a légal l'usage. Le Portugal donc a dépénalisé l'usage de toutes les drogues et fait excessivement intéressant. Il n'y a eu aucune augmentation de l'usage de tous les produits stupéfiants. Bien au contraire, l'argent qui a été économisé sur la répression a été investi dans le soin et dans la prévention, avec du coup pour ce pays-là aujourd'hui des taux de consommation les plus bas en Europe.
Serge Lebigot, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du think tank Terra Nova au début du mois d'octobre qui propose finalement que l'on s'appuie sur ce qui est fait pour la vente de jeux en ligne en France en créant une autorité de régulation du cannabis qui définirait les règles de production et de vente? Bonne ou mauvaise idée?
Mais très mauvaise idée. Puis moi, je remarque quand même qu'à chaque moment des élections présidentielles, on a tous ces Terra Nova et d'autres qui nous relancent le débat sur le cannabis. C'est quand même amusant parce que c'est tous les 5 ans, on y a le droit, c'est une matière cyclique. C'est des périodes, c'est soit au jour de l'an, soit au moment des élections. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que je vous dis, vous allez absolument pas ranger. De quoi on parle alors? On parle de la protection de la jeunesse. C'est-à-dire de tous ces adolescents qui sont des gros consommateurs. Moi, le gars qui consomme qu'à 50 ans, franchement, il peut se tuer avec, ça, c'est pas mon problème. Alors là, même s'il a un accident de voiture avec, c'est pas mon... Par contre, le gamin qui a 15-16 ans, qui lui, malheureusement, va devenir le futur assisté social parce qu'il a quitté l'école à 15-16 ans, c'est ça le problème. Et qu'on ne dise pas que le gamin ne va plus fumer parce que c'est légalisé. Enfin, l'alcool est légalisé, je connais des tas de gamins qui se font des soirées à la vodka, donc il faut arrêter un peu de croire qu'on n'est plus... Les bisounours, c'est terminé en France.
Nicolas Bonnet, quand notamment vous entendez les politiques qui sont opposés à la dépénalisation, qui affirment que voilà, ce serait un mauvais signal envoyé à la jeunesse...
Je me réjouis que Terra Nova s'empare du débat, je me réjouis que les politiques s'en emparent également, puisque vu l'importance du sujet dans notre société, je crois que c'est primordial que les politiques aujourd'hui s'en emparent et s'y investissent. Terra Nova a émis des recommandations fort intéressantes, d'abord en appliquant des mesures structurelles sur l'usage de cannabis, les mesures impliquées notamment au tabac, interdiction de la vente aux mineurs, je le rappelais, avertissement sanitaire, consommation interdite dans les lieux à usage collectif et clos. Deuxièmement, en développant également des actions de prévention fondées sur les preuves, on en a parlé aussi. Et puis troisièmement, également un point très important, en permettant l'accès aux mesures dites de réduction des risques liées à l'usage de drogue pour les consommateurs qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas arrêter. Ces mesures de réduction des risques, elles permettent de maintenir l'état de santé physique et psychique des consommateurs.
Et cette idée de créer une autorité de régulation du cannabis en France?
L'idée de créer un organe qui puisse en même temps émettre des recommandations sur la réglementation, sur la consommation, sur les espaces de consommation, sur les âges pour lesquels on peut consommer ou pas, etc., est une idée fort intéressante qu'il faut, à mon avis, absolument creuser pour pouvoir en émettre des recommandations qui soient, elles, du coup, puissent être appliquées dans la société. L'exemple de l'alcool est un produit également qui a une régulation pénale. On n'a pas le droit d'avoir des ivresses sur le public. Il y a différentes régulations, pas le droit de boire au volant, etc., etc. On pourrait appliquer une régulation à peu près identique pour le cannabis.
Serge de Bigot, effectivement, est-ce qu'on peut calquer la législation sur l'alcool à la législation sur le cannabis?
Regardez les accidents de la route, le nombre de personnes qui sont impliquées dues à l'alcool, vous allez comprendre que ça ne fonctionne pas du tout. Et pourtant, c'est régulé. Regardez la vente de tabac interdite aux mineurs, il n'y a jamais eu autant de mineurs qui consomment du tabac. Qu'on ne me dise pas que c'est régulé, ça fonctionne. On a quand même deux exemples flagrants en France, c'est le tabac et l'alcool, et on voit bien que c'est un fiasco total.
Fort heureusement, sur l'accidentologie routière concernant le cannabis, le surrisque est un surrisque de 1,8 avec le cannabis seul, c'est-à-dire un risque d'accident de la circulation routière qui est équivalent à une alcoolémie de 0,3 g par litre de sang, donc une alcoolémie qui est tolérée. Donc pour le cannabis, on n'a pas le droit de prendre le volant, pour l'alcool, on peut. Quand c'est associé avec l'alcool, le surrisque est de 15 fois plus à peu près, le risque d'accident, donc beaucoup plus. Concernant les régulations du tabac et de l'alcool, notamment pour les mineurs, on a aujourd'hui des signes fort encourageant qui démontre qu'on a une diminution de la consommation de tabac chez les mineurs, et tant mieux. Et heureusement qu'on a une régulation des consommations d'alcool au volant, sinon on aurait, comme dans les années 70, une mortalité routière bien plus importante.
Serge de Bigot, est-ce que c'est une bonne chose de procéder à des interpellations pour possession de cannabis? Ces interpellations-là, elles ont plus que doublé ces 10 dernières années. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une amende plutôt qu'une interpellation? C'est ce que préconise notamment un rapport interministériel qui a été remis cet été au chef du gouvernement, Manuel Valls.
Oui, enfin moi je suis pour l'amende sous une condition, que ça ne devienne pas un droit à consommer pour les enfants des bobos des beaux quartiers. Pour la simple raison, c'est que si c'est une amende de 50 ou 100 euros, celui qui a de l'argent, il ira s'acheter son carnet de timbre toutes les semaines, et il dira moi j'ai le droit de consommer. Celui des quartiers défavorisés, pour la même chose, il dira moi je peux pas consommer, donc je suis toujours dans l'illégalité. Donc si c'est une amende qui va dans les 250-300 euros, et à condition que la deuxième amende ne soit plus la même chose, mais une amende de catégorie 5, et la troisième une obligation de soi, il faut faire par échelle graduée en fait.
Nicolas Bonnet.
Pas qu'une amende.
Amende ou interpellation pour les personnes qui possèdent?
Écoutez, le rapport qui a été remis cet été, qui préconise des contraventions donc pour l'ensemble des consommateurs, d'abord des contraventions élevées, de 500 euros. Il faut rappeler que la contravention, c'est également une sanction pénale. Donc en fait, c'est le plus bas niveau des sanctions pénales. Donc ça voudrait dire un renforcement de la pénalisation autour de l'usage de cannabis. Donc je crois que ça ne va pas dans le bon sens. Et deuxièmement, et là je rejoins mon interlocuteur, c'est une amende, en tout cas des contraventions discriminantes qui vont favoriser des usages privilégiés chez les personnes qui ont des revenus et discriminer ceux qui ont des faibles revenus.
Alors, quel est le meilleur moyen pour sensibiliser au danger du cannabis?
Le meilleur moyen, c'est de refondre globalement la politique entourant le cannabis, de le concevoir comme un produit dont on peut avoir un usage régulé et un usage inclus dans la société comme dans de nombreux pays, avec des mesures, encore une fois, qui accompagneront l'usager, qui accompagneront les usages, en développant la prévention, en développant le soin également, et en développant aussi des mesures sociétales d'accompagnement par les parents des jeunes enfants, en développant les compétences psychosociales.
Serge de Bigot, plutôt qu'une amende, une interpellation, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt orienter justement l'usager vers une structure de soins adaptée comme, voilà, évoque Nicolas Bonnet, par exemple?
Oui, mais il faudrait déjà qu'il y ait des structures. Enfin, faut quand même rappeler que la France est un des pays où il y a le moins de structures de soins pour les toxicomanes. Je veux dire, vous avez des pays comme l'Italie, comme la Suède ou comme d'autres, où il y a des structures partout. En France, il y en a très très peu. C'est absolument aberrant qu'un toxicomane qui veut se faire soigner doive attendre 3-6 mois. Alors qu'on sait très bien qu'au bout de 3-6 mois, il est replongé dedans. Donc le vrai problème, c'est effectivement, est-ce qu'on continue à mettre tous les sous dans des associations qui prônent la légalisation? Ou est-ce qu'on continue à un moment à dire, avec ces intergents-là, au lieu d'ouvrir des salles de chute, Mme Touraine aurait mieux fait d'ouvrir des structures de soins pour les gamins?
En termes de sous, l'État consacre 850 millions d'euros par an à la lutte contre les stupéfiants.
Oui, mais à quelle lutte?
Aux interpellations notamment, qui sont très importantes.
Non, la prévention en France, elle n'existe pas. Il n'y a pas de prévention. Je peux vous dire, il y a quelques associations que je connais comme les miennes qui vont dans les écoles et encore privées, parce que le public leur est interdit. Dans le public, il n'y a pas de campagne de prévention. Ça n'existe pas en France.
Serge de Bigot, de Nicolas Bonnet, le mot de la fin, effectivement, c'est la prévention.
Fort heureusement, la prévention fonctionne, elle est efficace, elle est rentable, elle est coût efficace d'ailleurs. Beaucoup trop d'argent, ça a été rappelé, est consacré à la répression. Vivement qu'on l'investisse dans la prévention et qu'on mette en place en France des mesures innovantes en termes de réduction des risques de soins, encore une fois, et d'accompagnement des usagers et pas des toxicomanes.
Merci Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique. Merci à Serge de Bigot qui était en ligne également avec nous, président de l'association Parents contre la drogue, auteur notamment de l'ouvrage Le dossier noir du cannabis. Merci à Pauline Leduc qui a réalisé ce débat et à Florence Pons qui l'a préparé. Restez à l'écoute. Le retour de l'info, c'est dans 30 secondes sur RFI.